Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On arrive au numéro 820 du catéchisme de l'Église catholique, dans ce grand ensemble sur l'Église qui est une, avant d'aborder l'autre partie sur l'Église qui est sainte. Et à ce numéro 820, on nous encourage à avancer vers l'unité. Le premier qui a voulu cette unité, qui a prié pour elle, c'est le Christ. Pourquoi aspire-t-il tant à cette unité ?
C'est certainement dans le mystère divin même. Je pense que le catéchisme cite admirablement la prière dite sacerdotale de Jésus avant sa passion, Jean 17, 21, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je crois qu'il y a là le donner de ce désir profond du cœur de Jésus, cœur humain, mais cœur divin aussi, qui nous amène à ce don de l'unité, qui est un don qui vient d'en haut. L'unité divine fait notre union. Et ce n'est pas l'union par nos propres forces qui pourrait provoquer l'unité, mais c'est un don d'en haut. Et Jésus le rappelle dans cette prière, « Tout don vient d'en haut du Père des cieux ». C'est le début du verset du chapitre 1, verset 17 de Saint Jacques, « Tout don céleste qui vient du Père des Lumières. »
Donc pour nous catholiques, il faut nous unir à cette prière, il faut qu'on se convainque intérieurement que cette unité est importante. Il faut prier pour cette unité, agir pour cette unité, si vraiment on veut se conformer au Christ.
Oui, et il y a eu un très beau mouvement du pape Pie X qui a assimilé une semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui avait démarré aux États-Unis chez les épiscopaliens. Il y avait un groupe qui était très marqué par ce désir d'unité, qui s'est finalement remembré dans l'Église catholique par une association franciscaine. Et ce petit groupe, donc Watson et compagnie, s'est finalement à réinjecter un désir de prière pour l'unité qui a été bien généralisé dans toute l'Église catholique et puis finalement dans toutes les confessions de cette prière du 18 janvier au 25 janvier entre la fête de la chaire de Saint-Pierre à la conversion de Saint-Pierre. Pierre, donc une sorte d'octave de prière pour l'unité des chrétiens, pour que chaque année il y ait une attention particulière à ce désir du Christ et que cela puisse se prolonger tout du long de l'année par des initiatives pour engendrer donc un mouvement en faveur de l'unité des chrétiens.
Ça veut dire qu'on peut, nous les catholiques, prier avec les protestants ?
Alors, nous pouvons prier des éléments qui nous sont communs, par exemple notre Père, la prière de tous les chrétiens. Nous avons la possibilité de lire la parole de Dieu écrite qui nous est commune. Nous savons que malheureusement, la Bible est atrophiée chez nos frères protestants, puisqu'ils ont 9 parties en moins dans l'Ancien Testament, donc on ne peut pas tout lire avec eux, mais ça fait quand même une masse considérable, hein. La vie de la grâce, quand elle y est, on peut partager la foi, l'espérance et la charité quand elles y sont. Eh bien, ça fait déjà beaucoup d'éléments, je dirais, où il y a un partage de vie qui est possible.
Dans ces paragraphes 820, 821, 822, même avant, il a été en note, on a très fréquemment les initiales UR. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence ?
Alors le catéchisme de l'Église catholique a des tables auxquelles je renvoie bien sûr nos auditeurs et on a la possibilité de voir la signification de chacun de ces sigles UR est une abréviation de deux mots latins, unitatis redintegratio, la réintégration de l'unité. C'est donc le texte du Concile Vatican II qui est une sorte de décret d'application de ce que Lumen Gentium numéro 15 et 16 a exprimé sur l'éloignement de certains par rapport au mystère de la révélation et qui est développé donc dans Unitatis Redintegratio en prenant à la fois une partie plus, je dirais, introspective sur comment réaliser cette unité d'un point de vue théorique et puis d'un point de vue pratique avec les églises orientales et avec les communions ecclésiales protestantes, comment réaliser ce parcours d'unité, ce décret Unitatis Redintegratio, qui est ce texte qui a été proposé à la fin du Concile Vatican II, en même temps que Lumen Gentium, voté d'ailleurs le même jour que Lumen Gentium.
Est-ce que c'est facile à lire et est-ce que c'est gros? Est-ce qu'on peut encourager nos auditeurs à aller trouver ce texte, par exemple, sur le site du Vatican ou...
Oui, il est accessible sur le site du Vatican. Vous cherchez en bas du site, avec tous les textes de relief qui sont indiqués. Il y a le catéchisme de l'Église catholique, entre autres, mais aussi le Concile Vatican II lui-même. Vous avez les constitutions, les décrets et les déclarations. Les plus importants sont bien sûr à recommander. C'est d'abord les constitutions, Lumen Gentium, Dei Verbum, qui sont des constitutions dogmatiques, mais vous avez la constitution pastorale qui est Gaudium et Spes, et puis celle sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, ça forme les quatre constitutions qui sont relatives donc aux quatre sens de l'écriture. Et puis après, vous avez des décrets d'application, et en particulier sur ces chapitres 15 et 16 de Lumen Gentium, qui concernent donc l'œcuménisme et le dialogue avec les non-chrétiens.
Oui. Au numéro 821, pour avancer sur ce chemin de l'unité, il est proposé 7 points pour répondre adéquatement à ce qui est exigé. Est-ce que tu peux, à ce qui est invité par l'Église catholique, est-ce que tu peux rappeler ces différents points?
Alors ces points sont très riches et méritent chacun un approfondissement. Je dirais c'est toute la vie de l'Église et de ce qui est demandé pour faire avancer la cause de l'unité. Un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation, c'est l'esprit de Vatican II, c'est l'esprit de chaque concile qui a voulu à chaque fois redonner de l'élan suite à ses assemblées épiscopales. La conversion du cœur, sans laquelle on ne peut rien faire, puisque évidemment, revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur, et sans un retour de soi-même au Seigneur, eh bien, on n'amasse pas grand-chose. Le but, c'est de vivre plus purement selon l'Évangile. La prière en commun, qui débouche naturellement de cette conversion du cœur et de ce renouveau permanent, et qui va permettre de prier pour l'unité des chrétiens et de pouvoir s'unir là où c'est possible avec d'autres. Connaissance réciproque fraternelle, parce que souvent les divisions viennent plus de l'inculture, de la non-connaissance des autres. On ne sait pas distinguer souvent entre différentes branches des protestants. Il y a quatre grandes branches. Et si je ne connais pas un minimum mon histoire, comment pourrais-je répondre à la vie de foi de chacun? Vous avez le luthéranisme, et vous avez les réformés calvinistes, vous avez les ménonites, le protestantisme anabaptiste, vous avez aussi les anglicans. Tout cela, il faut les connaître. Je ne peux pas, pas les oublier, sans compter les formes plus modernes, comme les mouvements évangéliques libres, les mouvements pentecôtistes, etc. Et tout cela demande donc une bonne connaissance. Et puis vous avez la formation œcuménique des fidèles qui se passe dans chaque diocèse, qui demande que les pasteurs soient bien formés. Il ne faut pas se lancer dans cette œcuménie sans une grosse formation, parce qu'on serait vite pris par un dialogue déséquilibré, comme Ève et le serpent. C'est le premier dialogue de l'histoire de l'humanité. Ève s'est fait croquer, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas se précipiter à dialoguer si on n'est pas formé. Dialogue entre théologiens, oui, à condition qu'ils soient d'un bon niveau, et collaboration entre chrétiens dans les divers domaines de service des hommes, c'est l'œcuménisme, le dialogue pratique, si vous voulez, où on peut venir au service de l'humanité. Et tous ces points sont très utiles.
Merci pour ces précisions, et on encourage nos auditeurs à rentrer dans ce mouvement toujours davantage, avec leur paroisse aussi. Et on a vu qu'on pouvait prier avec les protestants, avec les orthodoxes. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut prier, parce qu'il y a eu une histoire avec le Jean-Paul II qui a fait beaucoup de mouvements, provoqué beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on peut prier avec des gens qui ne sont pas chrétiens, avec les bouddhistes, avec les musulmans ?
Alors, en théorie, je dirais oui, puisque toute vraie prière est instruite par le Saint-Esprit. Le problème, c'est comment le faire. Et donc, il vaut mieux une prière multireligieuse, comme à Assise, c'est-à-dire chacun dans son coin prie, mais pas ensemble, parce qu'il risque d'y avoir un phénomène de syncrétisme, de relativisme, d'illuminisme, et qui risquerait de faire perdre le sens de la vraie foi. Par exemple, avec un musulman, je ne peux pas réciter les 99 noms de Dieu. C'est pas parce que tous seraient faux, mais que la plupart des catholiques ne savent pas qu'il y en a trois qui sont absolument faux, contraire à la foi catholique. C'est le djabar, qui signifie celui qui contraint par violence, comme si Dieu contraignait par violence. C'est tout à fait contraire au principe de liberté. Mutagabir, qui veut dire altier, orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. Et puis kahar, qui est celui qui soumet, qui asservit. Dieu, au contraire, libère et donne la liberté. Et donc, si je récite ces noms sans savoir ce que je dis, je risque de commettre moi-même une hérésie.
Ah, voilà, on y revient. Voilà. Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.